Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits de France Culture.
En 1981, dans le quatrième volet de la série d'émissions par laquelle Les Nuits Magnétiques rendaient hommage à Jacques Lacan quelques semaines après sa mort, Laure Adler avait choisi de s'intéresser plus particulièrement à ses écrits qu'il avait publiés en 1966, après avoir longuement hésité à le faire. Dans l'émission qui va suivre, on entendra le philosophe et éditeur François Valle exposé dans quelles circonstances ses écrits furent publiés et les motifs de l'hésitation de Lacan. On y entendra également Jacques Lacan s'entretenant avec François Valle au moment de leur parution, à laquelle ce dernier avait notablement contribué. Dans ce quatrième volet, ponctué par un sketch de Zouk sur les psychanalystes, témoignait aussi l'écrivain François Weyergans qui avait été en analyse pendant plusieurs années avec Jacques Lacan. À rebours du jugement couramment exprimé, il y disait en quoi Lacan était bien, selon lui, un homme de l'écrit et pas seulement un orateur, en ne manquant pas d'évoquer en passant avec humour sa relation avec son analyste. Nuit magnétique, risque de turbulence, témoignage après la mort de Jacques Lacan, quatrième des cinq émissions, le Lacan des écrits, diffusé le 8 octobre 1981 sur France Culture.
Risque de turbulence, bonsoir.
Alors lundi c'était l'homme Lacan, mardi c'était le Lacan clinicien, hier c'était le Lacan qui a obligé tous les psychanalystes français à relire Freud et Freud en allemand, et aujourd'hui c'est le Lacan des écrits avec toujours comme perspective de n'avoir rencontré et de n'avoir parlé qu'avec des gens qui ont travaillé, connu, parlé avec Lacan, et tout d'abord François Weyergans.
De toute façon, attends, on peut essayer un truc là. Il faut que je pense à une phrase que Lacan disait. Oui, alors, enfin, les enchaînements, vous les faites après. De toute façon, on parle d'un psychanalyse, on n'enchaîne pas. Ouais. Mais ce qui est curieux aussi dans la personne de Lacan, c'est que à la fois, il était très au fait de la discipline qu'il utilisait, et en même temps, il la contestait. Et ça aussi, c'est un des rares qui fasse ça. Bon, c'est la moindre des choses que de faire ça. Mais j'ai quand même entendu dire la psychanalyse est une imposture. Et c'est intéressant de savoir qui disait ça, parce que ça donne une dimension beaucoup plus intéressante au personnage. Et si on ne conteste pas ce qu'on fait, il n'y a vraiment qu'à fermer la porte. Et je crains que la psychanalyse ne soit pratiquée un peu sur toute la planète, de la façon justement où, enfin, elle n'est pas contestée du tout et où on vous donne le biberon. Que je ne vois pas très bien à quoi ça peut avancer les gens, sauf une espèce de... Pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas que ces psychanalystes soient surveillés, enfin, que tout le monde peut devenir psychanalyste demain, etc. Parce qu'au fond, ils vous écoutent parler, mais ils ne dirigent pas. Ce qui compte, c'est quand même de diriger attentivement la chose, de voir un peu ce qui se passe et tout. Je crois que c'est même pas qu'il dirige mal, c'est que je crois qu'il dirige. Enfin, d'après les échos que j'ai d'autres personnes que je connais qui s'analysent, il est rare d'entendre. Enfin, c'est délicat de parler ça parce que je suis pas très au courant. On peut toujours m'opposer d'autres exemples, finalement, c'est vrai. Donc là, tenons-nous-en à la personne de Jacques Lacan qui. Sur qui on dit pique-pendre, hein, c'est curieux ça. Et hein, le fait que j'ai écrit un livre sur lui qui était censé faire un peu rire le lecteur, ce qui me paraissait aussi une politesse simplement vis-à-vis du lecteur, a été pris comme si j'étais contre lui, par beaucoup de gens qui peuvent être des lecteurs distraits. Et donc les gens veulent être contre lui. Enfin, je crois qu'il y a eu peu d'approbation. Alors pourquoi ? Alors bon, il y a eu tous ces jeux de mots qu'il a fait dans les 10 dernières années, qui étaient des jeux de mots parlés. Ce qui est très important, parce que c'était fait avec non seulement le... Enfin, il y avait le timbre de la voix, il y avait des silences, il y avait l'attente du jeu de mots, l'arrivée du jeu de mots qui arrivait alors qu'on attendait un autre mot, enfin, tout ça. Alors, c'est transcrit plus ou moins adroitement par un Séïd. Moi, je pense que si Lacan n'a pas écrit lui-même son séminaire, il a en revanche écrit le livre qui s'appelle « Les écrits ». Puis comme c'est un type pas idiot, comme on met sur un pot de yaourt, on met yaourt, lui, il met « écrit », il s'est écrit sur son livre, sur la couverture. Et les séminaires, il n'a pas écrit, je crois, pour qu'on puisse voir la différence. On voit la différence entre un livre écrit et un livre qui n'est pas écrit. Et donc, il ne faut pas nous faire croire que c'est un livre écrit. On sait ce que c'est des décryptages des bandes magnétiques, son travail de secrétariat. Et donc, qui fait bien perdre toute l'essence de la chose. Et alors, Lacan a accepté parce que ça devait sûrement lui servir de repoussoir. Moi, je pense que c'est un bon tour qu'il a joué à son éditeur. Et en revanche, les écrits, alors j'ai entendu, quand Lacan est mort, on a eu divers pantins qui sont venus s'agiter à la télévision et à la radio pour parler de lui, et tous vous venez vous raconter un truc qu'ils ont repris, je pense, dans un livre qui est plein d'erreurs à propos de Lacan, et on dit, voilà, les écrits, c'est pas écrit, vous savez, c'est tous des textes, c'était pas un écrivain, c'était un homme de parole, dans les écrits, plein de textes n'ont pas été écrits, ont été prononcés, etc. Alors, je me demande si ces gens savent lire, parce que les écrits, il n'y a rien de plus écrit comme texte, même que ce texte-là. Et même, il a pris souvent le soin, à la fin des textes, d'indiquer les dates d'écriture. Alors, il y a bien l'origine d'une conférence qu'il a prononcée à Munich, bon, c'est une conférence prononcée en allemand. Bon, déjà, elle est en français, tout, on pense... Bon, et c'est écrit, enfin, il ne faut pas savoir lire. Enfin, on a qu'à comparer le séminaire pour voir ce qui est du pas écrit avec l'écrit. Et je pense, Lacan, bon, a très beaucoup d'importance à l'écriture. Et de toute façon, c'est le point de vue sur lequel je décide de l'envisager. Alors, bon, c'est mon point de vue, je ne vois pas pourquoi j'en adopterais un autre. Et lui-même me faisait écrire des textes. Et ça me paraît important de relever ça, parce qu'on en fait un homme de parole, on fait une espèce de Socrate comme ça, qui n'était pas du tout.
Oh, figure-toi, hier au soir, j'étais chez les Chassins. Il y avait là Armand, Jacqueline, les Latour, les Borgeot, Micheline, un tas de leurs amis, tous des analystes et leurs épouses. Non, sincèrement, je ne suis pas difficile. Chez moi, je me contente très bien d'une omelette, mais quand on invite, c'est pas pour vous servir trois rondelles de concombre, une tranche de jambon et une patate bouillie. Ils veulent jouer les gens simples alors qu'ils sont tout le contraire. Oh, mais ces soirées, ça peut être d'un emmerdant. C'est toujours les mêmes qui la ramènent. Il y en a marre. On peut pas placer un mot sans qu'aussitôt il l'interprète. Oui, bon, d'accord, la sexualité, la fixation au père, à la mère, mais enfin, on tombe toujours dans le même système. Ils me disent que je ne suis pas sortie de mon problème avec mon père. Oui, c'est vrai, j'aimais énormément mon père et j'y étais très très attachée. J'ai eu envie de leur dire enfin, et vous et votre papa Freud et votre papa Lacan. Non mais sans blague, si je le leur disais, ils le prendraient très très mal. Ils sont tellement narcissiques. Ils parlent comme Lacan, ils mangent comme Lacan, ils s'habillent comme Lacan.
Une humoriste, Zouk, qui fait un sketch sur les analystes et sur Jacques Lacan, l'opinion toute personnelle de François Weyergan sur les écrits et sur le travail colossal de Jacques-Alain Miller sur la transcription de ses séminaires, sur le travail des séminaires, nous en reparlerons demain. Maintenant, écoutons Jacques Lacan, qui s'explique juste au moment de la publication des écrits en 1966.
Je n'ai publié ce recueil de mes écrits que pour rendre... maniable, un certain procès constructif à ceux-là qui l'intéressent. Il ne s'adresse pas aux philosophes, quoique écrit en un langage qui est de tout un chacun qui a une formation classique. Chacun de ses écrits est fait pour les praticiens de la plus difficile des pratiques, laquelle exige une discipline de la pensée encore fort mal réalisée. C'est la psychanalyse, vous l'avez dit, dont il s'agit.
Ça s'appelle donc « Écrit ». Ça a été publié en 1966 aux éditions du Seuil. 10 000 exemplaires vendus en un mois et plus de 60 000 un peu plus tard. Écoutons François Val qui nous parle des circonstances dans lesquelles Jacques Lacan a voulu publier ses écrits.
Je voudrais partir des circonstances dans lesquelles Jacques Lacan a décidé de publier les écrits. Il n'avait pas, au départ, le souci, le souhait de la publication, convaincu qu'elle prêtait surtout à des malentendus, et ce n'est pas par hasard qu'il a fait à ce sujet le mot d'esprit, poubellification. Il avait publié en revue, et essentiellement dans la revue La Psychanalyse, des extraits de son séminaire, année après année, des extraits qui n'étaient pas de simples extraits, qui étaient en fait une sorte de condensation de l'ensemble du travail d'une année. Mais cela était destiné aux auditeurs même du séminaire, et passé au-delà, Lacan le redoutait. Il craignait que son discours ne soit hors de son contexte et de l'expérience sur laquelle il s'appuyait, déformé, mésinterprété. Ce qu'il a décidé à publier, c'est l'apparition d'un certain nombre de commentaires qui révélait un profond malentendu, en effet. Et à ce moment, il lui a semblé que mieux encore valait donner le texte même pour qu'on puisse juger sur pièce plutôt que de laisser courir des interprétations qui devenaient des contresens. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de ceci que Lacan a pris au sérieux cette évidence qui, comme toute évidence, est la chose qu'on voit le moins, à savoir que l'analyse est une cure par la parole. Et que donc, elle révèle qu'une dimension fondamentale de toute une problématique avec laquelle se débat un sujet humain est dans la langue. Dire ceci pouvait prêter à malentendu dès lors que on y voyait « il faut chercher avec tous les artifices de la rhétorique » dès lors qu'il est dit que l'inconscient est structuré comme un langage, on pouvait donc penser qu'il faut interpréter l'inconscient comme on interprète un texte, c'est-à-dire qu'on allait trouver à la fin un sens, que, pour appeler les choses par leur nom, la psychanalyse serait une forme d'herméneutique. Or, précisément, un apport fondamental de Lacan a été de montrer que dès lors qu'on était dans l'ordre, non pas du langage, mais du comme un langage, on était dans un domaine où on tombait en définitive sur des lois, loi propre du signifiant, loi de différence, loi de retour, qui était complètement hétérogène au signifié et irréductible au signifié. C'est-à-dire que, à la limite, et pour appeler les choses par leur nom, on peut arriver au creux d'un discours, à une formule signifiante qui est en fait dépourvue de tout signifié. C'est donc tout le contraire du projet herméneutique qui, en dernière analyse, est ici en cause. C'est la constatation, en un sens effrayante, que le discours par lequel un sujet pense se dire, ce discours qu'il tient et qu'il se tient, et qui est pour lui ce qu'il est, ce discours peut se nouer autour d'une formule signifiant pure qui se refuse dans son opacité propre de signifiant et dans son fonctionnement de signifiant à toute espèce de signifié. On voit quelle était la taille du malentendu qui risquait de se produire autour de la formule « l'inconscient est structuré comme un langage ». On voit quels étaient les enjeux à ce moment-là, dans la première moitié des années 60, disons. Et c'est cette constatation qui, finalement, a, je peux en attester, puisque j'ai assisté à cette évolution, c'est cela qui a amené Jacques Lacan à décider de publier les écrits. Et je crois que c'est pour cela même que, en tête des écrits, vient le séminaire sur la lettre volée. Non pas simplement parce que c'est un numéro d'un éclat exceptionnel et une pièce de l'enseignement de Lacan qui a tout de suite fait histoire, mais parce que ce texte, et surtout dans sa partie centrale, parenthèse des parenthèses, illustre avec un éclat exceptionnel l'autonomie du signifiant par rapport à toute espèce de signifié.
Les écrits, ça fait 889 pages dans la collection Le Champ freudien dirigée par Jacques Lacan. Il y a à la fin un index raisonné des concepts majeurs qui est dû à Jacques-Alain Miller. Si on y est un peu perdu, ça permet de se repérer dans le texte. Et comme le dit Catherine Riwa dans un bel article paru dans Le Monde de ce soir, Jacques Lacan, instruit par l'expérience freudienne, avait sans doute découvert cette évidence que si ce que l'on comprend bien s'énonce clairement, ce qui s'énonce clairement n'est pas toujours bien compris. On en dit malgré soi beaucoup plus qu'on ne croit, et surtout on comprend de ce que vous avez dit tout autre chose que ce que vous avez voulu dire. Aussi, la meilleure façon de s'expliquer clairement, c'est de parler de façon compliquée. C'est ce qu'a fait Jacques Lacan. Écoutons Jacques Lacan juste au moment de la publication de ses écrits. C'était le 28 novembre 1966.
Mes écrits rassemblent les bases de la structure dans une science qui est à construire. Et structure veut dire langage, pour autant que le langage, comme réalité, fournit ici les fondements. Le structuralisme durera ce que durent les roses, les symbolismes et les parnasses, une saison littéraire. Ce qui ne veut pas dire que celle-ci ne sera pas plus féconde. La structure, elle, n'est pas prête passée, parce qu'elle s'inscrit dans le réel, ou plutôt qu'elle nous donne une chance de donner un sens à ce mot de réel au-delà du réalisme, qui, socialiste ou non, n'est toujours qu'un effet de discours. si je maintiens le terme de sujet pour ce que construit cette structure, c'est pour que ne reste aucune ambiguïté sur ce qu'il s'agit d'abolir et qu'il s'abolisse au point que son nom soit réaffecté à ce qui le remplace. Et je n'aurais pas encore publié ce recueil de mes écrits si ce qui s'y aimait, et spécialement depuis 15 ans, d'être reçu par moi du lieu de l'autre où s'inscrit le discours de ceux que j'écoute, et dans les termes où chaque psychanalyste reconnaît ceux-là même que chaque semaine lui fournit mon séminaire, n'avait fini par courir tout seul hors du champ où on peut le contrôler. Malgré moi, je dois le dire, mais non sans quelque raison, puisqu'en cet enseignement se joue le sort qu'à tous réserve l'avenir de la science, laquelle court, elle aussi, et bien en avant de la conscience que nous avons de ses progrès. Il me fallait, par ses écrits, mettre une barrière aux convoitises maintenant en route, des faussaires toujours de service sous la bannière de l'esprit.
François Veillargans.
De toute façon, on peut essayer un truc là. Il faut que je pense à une phrase que Lacan disait. Oui, enfin, les enchaînements, vous les faites après. De toute façon, on parle d'un psychanalyste, on n'enchaîne pas. On est un peu moins bête, normalement. On est censé être moins bête, non, après avoir fait une psychanalyse. Ce qui, je trouve, n'a pas de prix. Surtout par les temps qui courent. On a bien besoin de ne pas l'être trop, parce que... Ouais. Enfin, bon, ça, vous coupez, là, après, pas de prix.
Mais pourquoi vous avez choisi Lacan?
Je sais pas qui a choisi. C'est peut-être lui qui m'a choisi. Non pas me connaissant, mais le fait de publier, par exemple, le fait d'exister, le fait qu'il choisit aussi des gens. C'est-à-dire du moment où son nom était public, que peut-être lui choisissait autant que... Donc moi, je connaissais que lui parce que j'avais lu des textes de lui qui m'avaient assez épaté. Et il avait l'air un peu plus malin que les autres. J'avais lu aussi les textes des autres, alors Freud était mort. Et puis les autres, c'était pas très évident, leurs textes. Alors c'est un peu à cause des textes que j'allais le voir. Donc je m'étais recommandé d'un texte de lui, que je connaissais, je lui ai dit voilà, il m'a demandé pourquoi moi plutôt qu'un autre. D'abord, lui en plus il était dans le bottin, hein. Il était dans l'annuaire, et donc on trouve son téléphone. Et puis il n'y avait pas qui d'autre. C'était vraiment des tarés les autres, enfin des textes des autres que j'aurais jamais voulu aller confier mes mégots de cigarettes à tous ces gens-là.
Et quand vous avez publié votre texte, donc le pitre, est-ce que vous l'avez envoyé à Jacques Lacan?
Je l'ai porté, ma chère. Je l'ai remis en main propre. Enfin, si propre, il y avait... Ça, c'était 10 ans après, ça, même. Ouais, c'est dans ce bouquin, parce que... Alors, ça, c'est un roman que j'ai publié en 1974, je crois, d'ailleurs. Et... C'est bon, parce que ça s'appelait Le Pitre, et alors, beaucoup de gens l'ont pris de façon un peu mondano parisienne, en croyant que Le Pitre, c'était Lacan. Bon, enfin, il suffit de lire 20 pages pour comprendre que pas. Et enfin, alors, on a voulu le tirer. Enfin, ça a eu un petit succès salon, comme ça. On en parlait dans les brasseries. Bon, ce qui a aidé à vendre, ce qui n'est pas plus mal, dans un sens. Alors, je me remboursais un peu avec ce livre de ce que j'avais laissé chez Lacan. Vous voyez que finalement, c'est pas si cher, Lacan, puisque si on sait bien s'y prendre, il vous rembourse même à titre posthume, parce que là, on en revend encore un peu le PID. Donc
à cause de sa mort.
Ben, je suppose. Il rembourse. Donc, il m'avait dit, vous verrez du fric avec. Il m'avait dit, on parlait beaucoup de choses là. Alors il me disait, je le vois encore un jour, je le quittais debout. Alors il me serre la main un peu plus longuement d'habitude. Parce que voilà, j'avais payé avec un chèque sans provision, qui n'était pas de moi, c'est un chèque qu'on m'avait fait, que j'avais endossé. À l'époque, on avait encore heureusement le droit d'endosser des chèques, on n'est pas obligé de mettre à sa propre banque. Alors j'avais signé ce chèque pour lui, donc payable au docteur Lacan. Hein. Et puis, 8 jours après, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, regardez-moi ce chèque qui revient à payer. Je dis, vous savez, c'est pas pour moi, mais enfin, quand même, donc c'est à vous qu'on a donné ce chèque, donc un chèque en bois, hein. Apprenez à vous faire payer. Bon. Voilà, alors là-dessus, c'était, bon, je le quitte. Du coup, il en oublie de me demander de le payer, d'ailleurs, je me souviens de cette séance-là. Enfin, l'argent est quand même une chose très intéressante, dont on peut parler pendant des heures, comme vous savez. Alors, tout le monde parle de l'argent, les gens n'arrêtent pas de parler d'argent. Et après, il y a quelques, je sais pas quoi, psychanalystes patentés qui poussent des cris dehors, comment on dit, dehors frais, non ?
Dehors frais, oui.
Mais c'est ça, hors frais, oui. Bon. Voilà.
Et alors, vous lui avez apporté le livre, il l'a lu ?
Ben oui. Ça, il lisait beaucoup. C'est un grand lecteur, hein. Il lisait beaucoup. Je sais pas s'il disait la méthode Kennedy en diagonale ou pas, mais. Bon, sinon, c'est normal qu'il lise ce livre. On fait qu'imaginer que j'écrive un livre, vous soyez l'un des personnages principaux, vous le liriez quand même. Donc, bon, bien sûr, il l'a lu.
Et vous en avez
ça s'est aussi lu dans son entourage. Il semble que son entourage l'ait moins bien compris que lui. Mais c'est normal. Son entourage a toujours moins bien compris que lui, ce que lui comprenait. Enfin, d'après les échos que j'ai eus, moi, je ne connais pas tellement son entourage, mais on m'a dit que les gens avaient cru que je ne sais pas quoi.
Non, mais alors, ce qui m'exaspère, c'est qu'en musique, en littérature ou en peinture, ils prétendent tout savoir. Où ça s'amène ? Hors de moi. Non, mais si tu l'entendais Armand faire ses théories sur la musique classique, en sortant de l'opéra l'autre soir, tu sais qu'il ne rate pas un concert, eh bien, il t'explique Don Juan comme si tu étais la dernière des gourdes. Non, mais enfin, Mozart. Mais Mozart, c'est pas seulement son père, sa mère. Enfin, c'est autre chose. C'est la musique. Ils sont tous d'un snob et ils ne ratent pas une exposition de peinture importante. Et si tu savais la peinture qu'ils ont à leur mur, alors ça, c'est quelque chose d'inimaginable. À leurs yeux, on est tous des névrosés ou des psychopathes. Eh bien, excuse-moi, ce sont eux les premiers qui sont des névrosés.
Avec Bruno Sourcy, nous avons pu retrouver à l'Institut National de l'Audiovisuel les quelques enregistrements que Jacques Lacan a bien voulu accorder. Voici maintenant, c'est difficile de découper un peu arbitrairement, voici l'extrait d'une interview que Jacques Lacan a accordée à son éditeur, François Vannes, juste au moment de la publication de ses écrits.
L'inconscient n'est pas le mauvais moi, comme disait quelqu'un qui n'était pas précisément une lumière, et que j'ai dû, durant un temps, assidûment pratiquer. Le problème est un tout petit peu plus compliqué. Il est lié à la structure de la répétition. Sur lequel, quiconque pense sur le mode du dernier échantillon que je viens d'en donner, est voué à d'irrémédiables pataquès. Besoin de répétition ou répétition du besoin, par exemple. La répétition... Ce phénomène fondamental de l'inconscient, si fondamental qu'il en est peut-être le plus fondamental, est ramené au retour de la colique du matin. Que par exemple, il faille recourir, en se déduit, aux plus récentes acquisitions de la logique, c'est ce qui est de nature à nous montrer que cette logique n'est pas du tout une science retardataire, ce qui est fort heureux, si elle s'avère être elle-même une science fondamentale. Mais il faut dire que les irrégularités de son développement dans l'histoire, solidaires des aveuglements qui se manifestent encore dans notre temps dans l'appréciation des temps positifs de ce développement, manifestent bien qu'il y a là un domaine où les résistances de toute espèce se manifestent, qui pour n'être pas du tout référables à ce fourre-tout qu'on appelle l'affectif, ramène la question de ce qu'il en est vraiment de la résistance. Et que c'est dans la structure, c'est-à-dire dans quelque chose qui a l'avantage d'être analysable, qu'il faut peut-être en trouver la racine. Bien entendu, n'est mis ici en cause que la prétention théoricienne, qui certes prend toute son incidence quand il s'agit de former des analystes. Ceci laisse de côté, que le public se rassure, le thérapeute. L'équilibre se maintient. C'est la seule forme dont le chant s'ordonne dans la pratique, qui, elle, de toute façon, ne connaît que la parole. Assez autonome sonne toute de la pensée du praticien que guide son tact et son sens clinique, mais aussi bien les buts heureusement limités qu'il s'agit de remplir. Soulagement d'une situation pathogène, par exemple, ou résolution locale d'un symptôme. La question, posée au niveau où nous la posons, intéresse pourtant la transmission et surtout le progrès de cette pratique. Mais on le sent, pas seulement elle. Elle intéresse, dirons-nous, non pas tant le philosophe, au sens où la philosophie s'isole au titre d'un enseignement autonome, elle intéresse le philosophe au sens où celui-ci est présent en tout un chacun pour qui une pratique précise soulève des problèmes radicaux. Que les solutions que nous apportons à ces problèmes, les nôtres, reçoivent au niveau d'autres disciplines de singulières applications. Nous avons été amenés à publier ce volume, destiné surtout à écarter les malentendus qui s'engendrent d'une diffusion orale dont nous nous sommes trouvés le premier surplomb.
Demain, dernier rendez-vous avec Jacques Lacan, avec notamment le séminaire de 1953 à 1980, et bien sûr aussi les témoignages de Jacques Alain Miller, son gendre et son héritier, de ses analysants, et aussi la voix de Jacques Lacan.
À demain, bonsoir.
Vous venez d'entendre le Lacan des écrits, le quatrième des cinq temps de la série de témoignages après la mort de Jacques Lacan, diffusé dans le magazine Risque de turbulence des nuits magnétiques. Première diffusion le 8 octobre 1981 sur France Culture. À suivre.